Parlons Ferti, un podcast proposé par Eurochem. Inhibiteurs de nitrification, protoxyde d'azote, des mots compliqués gravitent autour des engrais et de leur impact sur le climat. Alors que le label bas carbone valide des actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, certains engrais se font une place sur la liste des produits labellisés. Mais de quoi parle-t-on précisément ?
Alors rappelons-nous tout d'abord que les plantes produisent de la matière organique, à partir de l'énergie solaire et des éléments minéraux et de l'eau.
Marc Hervé, agronome et responsable technique nationale chez Eurochem.
En ce qui concerne les éléments minéraux, c'est l'offre du sol qui va fournir aux plantes ce dont elles ont besoin. Et cette offre est souvent insuffisante, principalement en azote. Et donc c'est là que la fertilisation raisonnée intervient. On va adapter les quantités d'azote que l'on va amener pour faire en sorte qu'un maximum de l'apport soit utilisé par la plante. Alors, le cycle de l'azote n'est pas parfaitement bouclé, on subit quelques pertes. On peut parler des pertes d'azote par lessivage, qui est la première perte, la première à être connue. Et puis après, on a des pertes gazeuses, des pertes par volatilisation ammoniacale, mais aussi des pertes par protoxyde d'azote. Et donc, ce protoxyde d'azote est un puissant gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est quelque chose qui va venir impacter l'empreinte carbone. Alors, pour réduire ces pertes au maximum, on raisonne la dose d'apport, la date d'apport. Et puis, on a un autre levier qui concerne les formes d'azote utilisées. Et dans ces formes d'azote techniques, on a les inhibiteurs nutrification, qui sont un mode de fonctionnement particulier pour les engrais azotés et qui ont une efficacité importante quant à l'abattement de ces pertes par protoxyde d'azote.
Qu'est-ce que ces mots, inhibiteurs de nitrification, protoxyde d'azote, ont à voir avec la lutte contre le réchauffement climatique ?
Alors, dans l'atmosphère, on a différents gaz qui ont la capacité de jouer le rôle d'isolant. L'activité humaine avec la révolution industrielle a fait que les concentrations en ces gaz qui ont des pouvoirs isolants, qu'on appelle gaz à effet de serre, a fortement augmenté. Dans ces gaz à effet de serre, on a le protoxyde d'azote, qui est un puissant gaz à effet de serre. Il est 265 fois plus puissant que le CO2. Et toute source d'azote mise en jeu dans la production végétale va être susceptible d'émettre du protoxyde d'azote. Alors, les engrais contenant un inhibiteur de nitrification ont la capacité de ralentir la transformation de l'ammonium en nitrate et donc ainsi de diminuer la sensibilité de l'azote apporté aux pertes en protoxyde d'azote. Ça, c'est un élément très important. Et dans ces inhibiteurs, on a en particulier les engrais type NTEC qui contiennent le DMPP, qui est un inhibiteur de nitrification puissant dans la mesure où il réduit jusqu'à 50% les émissions au champ de protoxyde d'azote.
De quand date cette technologie ? Pourquoi a-t-on inventé des inhibiteurs de nitrification ?
Alors la technologie peut paraître ancienne. On connaît les inhibiteurs de nitrification depuis une cinquantaine d'années. Il y a plein de composés qui ont des propriétés d'inhiber la nitrification. Et puis ensuite, on a recherché des composés qui avaient beaucoup plus de qualité que de défauts, qui étaient très efficaces, très peu toxiques, qu'on pouvait mettre dans les engrais. Et c'est comme ça que dans les années 2000, ont été homologués en France les engrais NTEC, qui constituaient la première gamme d'engrais avec inhibiteurs de nitrification homologués en France. Et puis en 2013, ces engrais-là se sont vus intégrés dans la norme européenne des engrais, le règlement CE 2003-2003. Donc ces bénéfices de réduction de protoxyde d'azote sont connus depuis longtemps et dès le début on savait qu'ils étaient efficaces. Dans un premier temps, ces engrais ont été mis au point principalement pour leur vertu de réduire la sensibilité de perte d'azote au lessivage. Et puis les quantités de perte sous forme de protoxyde d'azote, c'est souvent des quantités faibles d'azote perdu. Donc au regard du bilan azoté, ça représentait un enjeu qui n'était pas important pour le producteur. Maintenant qu'on cherche à réduire fortement l'empreinte carbone des productions agricoles, on remet au goût du jour cette vertu. Et ces produits qui sont certes connus depuis de nombreuses années reviennent au devant de la scène grâce à cette propriété qu'on avait un petit peu oubliée.
Quelles sont les preuves concrètes de leurs effets sur le climat ?
Donc, comme les inhibiteurs de nitrification sont connus depuis de longue date maintenant, la communauté scientifique s'est intéressée au sujet, a pu faire de nombreux essais, et c'est vrai qu'on a une bibliographie très riche sur le sujet. De nombreux articles scientifiques et études ont démontré les bénéfices des inhibiteurs de nitrification sur la réduction du protoxyde d'azote. La communauté scientifique s'entend pour retenir que, en général, les inhibiteurs de nitrification permettent un abattement de 37% des émissions de protoxyde d'azote. Et au sein des inhibiteurs, certains composés sont plus puissants. On pense en particulier au DMPP, qui est contenu dans la gamme NTEC, qui abat ses émissions de protoxyde d'azote d'environ 50%. Alors, ces chiffres ont été repris par différents calculateurs qui permettent aux agriculteurs de calculer leur empreinte carbone. On pense à Cool Farm Tool qui retient cet abattement de 37%. Et puis, dernièrement, la méthodologie grande culture du label bas carbone qui propose un abattement de 20% pour l'utilisation d'un inhibiteur en nutrification. Alors, dans les études, nous, qu'on a pu mener en France avec l'équipe agronomique de Roquem, depuis de nombreuses années, on a pu redémontrer tous ces bénéfices et aussi le fait que ça nous permettait d'arriver à une production quantitativement et qualitativement souhaitable pour l'agriculteur, et donc que ces bénéfices n'étaient pas faits ou obtenus au détriment d'une production. Et donc, ça nous a permis de mettre au point les positionnements les plus adaptés pour le contexte pédoclimatique français.
Qu'apportent-ils de plus ? En quoi est-ce qu'ils servent à une agriculture plus durable ?
Alors, comme on l'a vu, le cycle de l'azote est un cycle où on a quelques pertes. L'intérêt de ces produits est de réduire fortement les pertes par lessivage, par émission de protoxyde d'azote, de maintenir un niveau de production très satisfaisant pour l'agriculteur et un niveau de qualité très satisfaisant pour l'agriculteur. Les essais nous ont permis aussi de montrer qu'on était beaucoup plus résilient face à un climat un petit peu extrême. Bref, conserver les avantages d'une fertilisation azotée sans en avoir les inconvénients, c'est à mon sens une bonne définition de ce qu'on recherche pour l'agriculture durable de demain. Et en cela, je pense que cette gamme N-Tech est bien un outil qu'il faudra conserver et mettre à profit pour atteindre ces objectifs de l'agriculture durable.
Réduire l'impact sur le climat, mais aussi l'air et l'eau, et tout en respectant le besoin de rendement et de rentabilité des agriculteurs. Cette technologie existe déjà, mais c'est aujourd'hui qu'elle semble révéler encore plus tout son potentiel. Merci Marc Hervé pour votre éclairage.
Mais je vous remercie et en espérant avoir été clair.
Parlons Ferti, un podcast proposé par Eurochem. Retrouvez toutes les infos sur le www.eurochemfrance.fr.